Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle qui vous résume toute l'actu jeux vidéo, console, PC, même mobile des fois de temps en temps un petit peu. Je suis Patrick Béja et je vous présente aujourd'hui cette émission avec l'immense plaisir que provoque évidemment la présence de mon camarade de presque toujours, j'ai nommé Daniel Charby. Comment vas-tu Dany ?
Bonjour, et bah écoute, tout va bien, je suis très content d'être ici pour faire le rendez-vous jeu avec avec toi, et bah j'espère qu'on va pouvoir être en désaccord sur plein de choses.
je pense qu'il y aura pas trop de problèmes à ce niveau-là, mais la personne qui va pouvoir nous ramener vers la vérité absolue des chiffres et des faits, c'est le deuxième co-animateur de cette émission, de cet épisode, j'ai nommé Oscar Lemaire. J'étais en train de chercher un adjectif pour encore plus qualifier ton sérieux, Oscar, et j'ai pas trouvé. Comment ça va ?
Ça va très bien.
Tu as été hyper occupé toute la matinée à décortiquer le bilan de Nintendo, c'est ça ?
Oui, exactement. C'est toujours un grand moment vu que dans le domaine du jeu vidéo, c'est ceux qui donnent le plus de chiffres, donc c'est ceux qui donnent le plus de matière à travailler.
Ouais. Bah écoutez, justement, on va en parler aujourd'hui un petit peu de ce bilan. On va parler donc de Nintendo, de EA qui parle de Microsoft, un petit peu bizarre, un petit peu de la Xbox One aussi, de Sony qui mélange des sociétés à eux, de Bungie chez qui le président a été il est allé passer plus de temps avec sa famille, c'est comme ça qu'on dit, on en détaillera un petit peu plus les tenants et les aboutissants, et puis plein d'autres petites news, évidemment, on va parler un peu de The Division, de The Witness, etc., etc. Mais on commence donc avec le bilan de Nintendo que moi j'ai suivi en direct sur le Twitter d'Oscar Lemaire qui nous fait des graphiques invraisemblables en live. Et je propose, justement, puisqu'on a l'expert, qu'est-ce que t'as retenu, toi, de ce bilan annuel de Nintendo ?
Sur les grandes lignes, il n'y a pas tant de choses que ça à retenir parce que finalement ils sont un peu dans une période de transition où ils attendent de rebondir, mais et en même temps ils sont dans le vert. Ils étaient déjà dans le vert l'année dernière. Ils font encore des bénéfices cette année, un peu moins important parce que l'année dernière ils avaient bénéficié des taux de change favorables. Là c'est moins le cas, mais bon, ils arrivent à, malgré le manque de succès de la Wii U et le déclin de la 3DS, ils arrivent à toujours gagner de l'argent et à bien s'en sortir.
Ouais, c'est un maintien neutral plus, on va dire. Ils sont certainement pas en dans le rouge. J'ai retenu parmi certains des chiffres que tu as mis en graphique sur Twitter la confirmation de la performance, enfin la contre-performance de la Wii U certainement. Ceci dit, ils sont à 12,6 millions de consoles vendues. C'est moins bien que la. Si vous vous souvenez de la GameCube, je pense que les souvenirs ne sont pas forcément ceux d'un succès fulgurant. C'est à plus de 3 millions de machines de moins que la GameCube. Donc bon, mais
après,
ceci
cela dit,
il y a
quand même une nuance là-dedans, c'est que la GameCube était sortie en septembre au Japon, donc ça lui donne un trimestre d'avance. Vu qu'en fait elle était sortie dans le trimestre juillet à septembre. Et du coup, ça fait que là, si on les compare, on compare le total de la Wii U avec la période de fin d'année, avec le total de la GameCube à fin septembre de l'année équivalente de.
Ouais, donc ça veut dire que la Wii U a un avantage du coup, puisqu'elle a la fin de l'année où ça se vend mieux normalement.
Voilà, c'est-à-dire que si on fera la même comparaison dans un trimestre, l'écart sera beaucoup plus grand vu que d'un seul coup il y aura les 2 millions de GameCube qui s'est vendu à l'époque pendant la fin d'année quoi.
Ouais.
Et,
bon, ceci dit,
il y avait autre chose moi sur lequel je voulais rebondir, c'est en fait le marché à l'époque était nettement plus petit et restreint, donc la proportion de GameCube en termes de part de marché total par rapport à ce qu'il y avait sur PlayStation 2 et Xbox était beaucoup plus importante que celle de la Wii U par rapport au marché global des consoles aujourd'hui.
Ouais, c'est sûr que le jeu vidéo est devenu un loisir encore plus universel, ou au moins la taille de l'industrie a beaucoup augmenté. Donc oui, c'est sûr que la contre-performance.
Après c'est surtout qu'à ce niveau-là, la Wii U est déjà sur sa fin de vie. Il y aura probablement une nouvelle console d'ici un ou deux ans, alors que la PS4 et la Xbox One, elles vont encore être là pour un bon moment.
Bien sûr. Il y a aussi une console qui va quand même beaucoup mieux, c'est la 3DS, mais c'est marrant de voir, là aussi c'est un insight que j'ai eu grâce à tes graphiques, c'était la comparaison pour toutes les consoles portables de Nintendo, Game Boy avec Game Boy Color presque 120 millions, Game Boy Advance 80 millions, Nintendo DS là encore c'était le début des années Iwata entre la Wii et pas la Wii U, hein, la Wii et la DS. La DS a fait au total 150 millions, plus de 150 millions. La 3DS, qui est loin d'être un échec, hein, qui a quand même réussi à redresser la barre assez vite en baissant le prix, n'est qu'à 58 millions. Donc, bon, on est encore dans le courant de la vie de la 3DS, même si on pense également qu'elle arrive sur la fin avec le mystère de la NX. Mais même la 3DS, même au niveau des consoles portables, où ça va quand même pas mal pour Nintendo, on est loin des hauteurs qu'on a connues avec d'autres console, quoi.
Oui, alors là, je le fais à l'instant là. Si tu veux, pareil, une comparaison au même rythme de vie par rapport aux précédentes consoles, la 3DS a plus de 55 millions de retard sur la DS au même stade de sa carrière et plus de 16 millions de retard sur la Game Boy Advance.
Ouais.
Donc effectivement, et puis ce qui est important, c'est que alors là Nintendo vend beaucoup plus de 3DS que de Wii U, mais
ça me fait plaisir que tu dises Nintendo comme
oui,
comme
c'est un défaut que j'ai.
Dani me faisait la remarque, je disais Nintendo, il me dit mais non, on dit Nintendo. Okay. Excuse-moi, continue.
Mais alors, le truc intéressant, c'est que donc, en ce moment, ils vendent plus de 3DS que de Wii U, mais la Wii U est sur une dynamique plus. Parce que là, en 2015, les ventes sont en hausse de 2%, c'est pas énorme. Mais alors que la 3DS, les ventes sont en baisse de 2%, malgré le lancement de la New 3DS. Ouais. En Occident pendant l'année. Et le truc intéressant, c'est que quand on regarde les ventes de jeux, les deux jeux qui ont le mieux marché en 2015 chez Nintendo, ce sont des jeux Wii U, à savoir Splatoon et Mario Maker.
Bah justement, à ce propos, moi c'est un truc qui m'a marqué parce que c'est pas foncièrement des nouvelles catastrophiques, hein, pour Nintendo. Comme on le disait, ils font un petit peu d'argent, les consoles sont pas en super forme, mais bon, la 3DS maintient, mais la grosse surprise qui est assez invraisemblable, même pour moi, c'est les ventes de Splatoon. Alors Mario Maker, bien sûr, mais Splatoon aussi, qui vend 4 millions d'unités sur une base installée de 12 millions environ, c'est assez invraisemblable, quoi. Le jeu le vaut, le jeu est excellent, mais un tiers... un possesseur de Wii U sur 3 a acheté Splatoon. C'est dingue, quoi.
Ouais, non, c'est Splatoon, c'est vraiment impressionnant. Ils ont vraiment réussi un truc incroyable. Là, au Japon,
une nouvelle licence en plus. C'est surtout
ouais,
ça.
Voilà,
quoi.
Une nouvelle licence, c'est pour ça que c'est quand même très encourageant pour une société comme Nintendo qui fait assez peu de nouvelles licences et que là ils parviennent à avoir un tel succès avec ça. Et surtout au Japon, c'est vraiment impressionnant là-bas. C'est-à-dire que au Japon, rien qu'au Japon, le jeu a fait plus d'un million. Et il est sur le point de devenir le jeu le plus vendu de la Wii U là-bas. Et ce qui est fou, c'est que ce sera la première fois qu'une console sur une console Nintendo, le jeu le plus vendu n'implique ni Mario ni Pokémon.
Hmm. Bon, certains diront peut-être que c'est l'un des seuls jeux qui est sorti dans l'année. C'est des mauvaises langues, cela. Mais mais enfin, il s'est plus vendu que Mario Maker, qui s'est quand même très bien vendu lui aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement la nouvelle licence et puis le fait que ça soit un jeu de tir. Bon, alors un TPS, mais c'est très généralement le Japon n'est pas hyper friand de jeux de tir, hein, quand même. Et un jeu de tir multijoueur, c'est vraiment la touche Nintendo qu'on trouve là. C'est vrai que le jeu est quand même très bon. Donc bon, c'est une très bonne surprise quoi. Dany, toi, bon, pour full disclosure comme toujours, toi tu travailles pour Alienware. Je crois que contractuellement, je suis obligé de dire que Alienware, c'est les meilleurs PC. On avait dit quoi, de l'univers, c'est ça?
De l'univers et ouais, de l'au-delà, okay. Même.
Et t'as même travaillé chez Nintendo pendant un moment, il y a très très longtemps.
Tout à fait. Tout à fait. Moi en fait dans ce dans ces résultats là, il y a une chose qui m'interpelle plus que toutes les autres. Donc Splatoon, c'est très bon résultat, le jeu est original, c'est une bonne chose pour Nintendo, je pense. Mais ce qui m'interpelle vraiment, c'est Mario Kart 7, qui est en sixième position, ouais. Avec 1 300 000 jeux vendus l'année dernière. Mario Kart 7, qui est sorti, je crois, en 2011.
Ouais, c'était 2012, un jeu DS.
Peut-être, c'est très très impressionnant que encore aujourd'hui, ils se vendent comme des petits pains. Hein.
Bah, c'est vraiment la caractéristique des jeux Nintendo. T'avais raison, c'est fin 2011. La caractéristique des jeux Nintendo qui se vendent en fait sur la console ad vitam, et c'est pour ça qu'il est toujours difficile de les trouver bon marché. Même d'occasion, ils font genre 5€ de moins que le prix du jeu neuf. C'est très très difficile de les trouver bon marché. Pour information, au total, Mario Kart 7 s'est vendu 13 millions. J'utilise toujours tes graphiques, hein, Oscar, mais 13 millions d'unités. Et 1 million rien que l'année dernière, et c'est le sixième plus vendu effectivement. On voit que on a aussi Pokémon. C'est l'autre que je cherchais. Les meilleures ventes totales, Mario Kart. Je vais y arriver. Mario Kart 7 est deuxième des ventes totales sur 3DS. Donc ça reste effectivement un titre qui se vend. En fait, le truc c'est que comme toujours sur les consoles Nintendo, t'achètes ta console, que tu l'aies achetée au moment de la sortie ou plus tard, il y a quelques jeux que t'achètes avec, ou en tout cas que t'as de grandes chances d'acheter avec. Les Mario, les Zelda, les machins, ceux-là ils se vendent toujours.
C'est donc, le souci je pense des consoles Nintendo, c'est que finalement les jeux qui se vendent, c'est les jeux Nintendo. Les ouais. third party, disons que je suis incapable de t'en citer un sur la Wii U qui soit sorti l'année dernière.
Ouais, bah il y a Bayonetta 2.
Bayonetta, effectivement.
Ah bah Just non, Dance, Bayonetta. C'est Nintendo, l'éditeur.
Ah Nintendo, ah d'accord. Je savais même pas, mais c'est Nintendo qui a édité, mais pas développé.
Non, c'est Platinum
qui a développé, ouais, mais
Nintendo. Ouais, donc c'est quand même Nintendo, t'as raison, ouais. Parce que, ouais, d'accord, ok. Donc, effectivement, donc, et ça explique qu'il soit sorti. Ouais, effectivement.
Il y a des Lego aussi qui sortent sur Wii U.
Oui.
Ils sont très rares, effectivement. C'est sûr que c'est un avantage pour Nintendo et en même temps un inconvénient, et c'est le gros problème qu'ils ont eu avec cette génération en particulier. Je pense qu'ils vont faire des facilités aux développeurs tiers pour leur prochaine console, parce qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir une situation similaire
pour la prochaine aussi. Je pense pas que ce soit un vrai problème pour Nintendo, parce que...
C'est vrai?
Bah, c'est-à-dire que on peut considérer comme un problème, parce que effectivement ça fait que leurs consoles ont moins de jeux, et ça leur fait aussi eux moins de fric, parce que les constructeurs récupèrent beaucoup d'argent avec les royalties, mais fondamentalement c'est un truc qui est spécifique aux consoles Nintendo, parce que Nintendo fait des consoles atypiques, et je pense que la seule manière qu'ils pourraient avoir qui pourrait faire pour récupérer les éditeurs tiers, c'est de faire des consoles comme Sony et comme Microsoft. Mais pour moi, ça serait se tirer une balle dans le pied, parce que
ils peuvent pas sur ce point. Enfin, s'ils faisaient les mêmes consoles, ils pourraient pas être en compétition avec eux, quoi.
Ouais, voilà. Déjà que la situation de Microsoft est assez difficile actuellement. Si en plus il y en avait un troisième qui rentrait dans l'arène en proposant la même chose, il a aucune chance, quoi.
Ouais. Après, je pense c'est vrai que
leur seul espoir est de faire un truc atypique, et à partir de là, à partir du moment où ils font un truc atypique, forcément c'est pas idéal pour les éditeurs tiers, quoi.
Ouais. Bon, en plus le mauvais démarrage et les mauvaises ventes de la Wii U avaient pas aidé. C'est sûr que s'ils en vendaient, s'il y en avait 30 millions sur le marché, la situation serait peut-être un petit peu différente. Et puis le fait qu'elle soit moins puissante, etc. Il y avait tout un tas de soucis avec la Wii U. On va pas revenir sur tout ça, mais finalement, t'as raison. Ils peuvent peut-être être le Nespresso du jeu vidéo. Ils font leur console et ils font les jeux qui vont avec leur console. Ils ont pas obligatoirement besoin de d'autres personnes qui viennent alimenter la machine, quoi. C'est, ouais. Ça veut dire qu'ils se vendront peut-être moins que les autres éditeurs qui ont des facilités pour les développeurs tiers qui vont développer sur trois plateformes en même temps. Mais en même temps, ça leur permet d'exister d'une manière plus importante que si que s'ils n'existaient pas. peut-être un dernier mot avant de refermer ce dossier Nintendo sur les Amiibo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Ils sont peut-être un petit peu moins populaires en Europe qu'ils ne sont aux États-Unis, mais est-ce qu'on a des bilans aussi sur les Amiibo?
Bah le oui, on a atteint un total de 31 millions, il me semble. Depuis la sortie d'Amiibo écoulé dans le monde, donc c'est pas mal, dont quasiment 10 millions sur le dernier trimestre, sur la fin d'année, ce qui est leur trimestre record pour les Amiibo. Bon, ce qui est pas étonnant en même temps, parce que forcément il y en a à chaque trimestre, il y en a de plus en plus sur le marché. Mais ouais, donc ça marche bien. C'est après, enfin voilà, faut remettre dans le contexte que les Skylanders, par exemple, c'est beaucoup plus quoi. Les Skylanders, ils en sont à plus de 200 millions.
Ouais. Bon, ils sont donc, là depuis plus longtemps, mais
ils sont là
mais
depuis
quand
plus
même.
Longtemps. Mais même si on compare à l'époque, c'est-à-dire que sur leur deuxième année, sur l'année, la première année complète, on va dire, Skylanders c'était 80 millions, alors que les Amiibo c'est 25 millions. Mais après, c'est vrai que c'est deux trucs pas idéalement comparables, parce que les Skylanders c'est disponible sur tous les supports, c'est un truc qui est davantage nécessaire pour les jeux quoi. Si on veut jouer aux jeux Skylanders, il faut forcément acheter beaucoup de figurines pour profiter du jeu, et puis ils en mettent beaucoup plus sur le marché aussi.
Ouais, bon, bah voilà, je pense que en gros un bilan qui est franchement, j'ai l'impression qu'ils sauvent les meubles quoi. Ça allait pas super bien clairement pour la Wii U, ça commençait à sentir la fin pour la 3DS aussi. Principalement à cause de problèmes de puissance hein, je pense, ça devient compliqué de développer sur la 3DS. Et du coup, au final, bah, ils réussissent à atterrir en douceur cette génération, et on espère qu'ils vont pouvoir redécoller en force avec l'année prochaine, la présentation de la NX. L'année prochaine, on y est déjà, on est en 2016. Cette année, la présentation de la NX. Donc, bon, voilà, le mot de la fin, Dani.
Écoute, moi à voir. Les chiffres sont relativement encourageants quand même à mon avis pour Nintendo, parce que finalement il n'y a pas eu un milliard de sorties non plus, notamment sur la 3DS l'année dernière. Je pense que cette année il y aura des choses assez intéressantes qui vont sortir sur 3DS. Moins j'ai l'impression sur Wii U, mais je pense qu'ils n'ont pas trop de soucis à se faire à l'heure actuelle. Ensuite, en ce qui concerne la NX, il y a tellement d'attentes autour que j'espère qu'ils vont annoncer à la fois quelque chose original comme seuls eux savent le faire, mais aussi ayant suffisamment de puissance et un line-up de lancement plus satisfaisant que celui qu'il y avait sur la Wii U ou la 3DS.
Ouais, on a entendu des rumeurs sur une possible compatibilité Smash Bros au lancement de la NX. Alors est-ce que c'est une version, la version Wii U adaptée ou encore une nouvelle version carrément? Et puis on a le Zelda qui a priori arrivera en même temps sur Wii U et sur NX. C'est vrai, t'y crois pas?
Au Zelda. Ouais, je. Enfin, disons que c'est purement théorique, mais moi je reste sur l'idée
oui,
que qu'on oui voilà, c'est vraiment de la spéculation, mais moi je reste sur l'idée qu'on va avoir une NX à la fin de l'année qui sera en fait une console portable, et une NX l'année d'après, donc en 2017, qui sera une console de salon. Et par conséquent, enfin moi je suis persuadé que le Zelda sur Wii U sortira bien cette année et que ça restera un jeu Wii U uniquement quoi.
Ah, c'est intéressant comme théorie ça, la séparation des deux faces de la NX. Ça pourrait.
Après,
être
voilà,
cohérent,
c'est de la spéculation, mais.
Entendu aussi l'idée que ça soit en fait un système d'exploitation d'une certaine manière qui puisse être utilisable sur différentes.
Voilà, c'est ça. Je pense que c'est surtout ça que ça va être, que ça va être deux consoles avec un système d'exploitation unifié, avec des facilités de portage entre la console de salon et la console portable, un peu comme ce que fait Sony par ailleurs avec la PlayStation 3 et la Vita.
Ouais, mais on a entendu aussi des idées selon lesquelles ça serait carrément un système d'exploitation qui pourrait être utilisé même ailleurs que sur les machines Nintendo. Ce que moi j'y crois pas trop, mais bon.
Oui, enfin de toute façon on verra. Je pense qu'on devrait en savoir plus dans pas longtemps là.
Ouais,
maintenant.
Là ça arrive a priori à l'E3 ou peut-être même un petit peu avant. Bon, ce qui est sûr c'est que ils ont atterri en douceur, mais là ils ont plus vraiment de filet de sécurité sur l'année prochaine. Ils peuvent pas vraiment se rater avec la NX parce que sinon bah ils peuvent plus compter sur la console précédente quoi. Parce que là on arrive sur la fin vraiment. Bref, pendant le bilan de EA, il y a eu une petite remarque intéressante du Chief Financial Officer qui s'appelle Blake Jorgensen, je prononce à la nordique hein, maintenant que je suis un résident de ces contrées. Donc Blake Jorgensen a dit que leurs estimations étaient qu'il y avait 55 millions de consoles génération actuelle qui avaient été vendues. Alors évidemment, quand on sait que... Et il a dit que c'était 50% de plus que la génération précédente au même moment. Donc c'est hyper positif, les consoles se vendent très très bien. Mais comme on entend ce chiffre de 55 millions et qu'on sait qu'il y a à peu près une 35 millions... 36 36. Millions... Ouais, 36 millions de consoles PlayStation 4 vendues. Eh ben, on peut forcément comprendre par déduction simple et par une opération mathématique de soustraction qu'il y a à peu près 19 millions de consoles Xbox One vendues. Alors, il faut là encore prendre quelques pincettes. C'est les estimations visiblement d'EA. On ne sait pas d'où ils sortent leurs chiffres, etc. Mais c'est une indication qui semblerait cohérente avec ce qu'on savait déjà plus ou moins. Ça fait à peu près la moitié des consoles Xbox vendues par rapport aux consoles PlayStation 4. Finalement, c'est pas une grosse surprise, mais c'est une confirmation un petit peu chiffrée de la domination de la PlayStation 4. En même temps, quand on compare à ce qui s'était... Est-ce que tu sais si c'est comparable aux ventes de la Xbox 360, par exemple, Oscar? Je te pose la question comme ça au
si
hasard.
C'est comparable, mais... c'est-à-dire
si, après 2 ans, la Xbox 360 s'était vendue combien?
Moins que ça. Alors,
c'est ce dont j'avais l'impression. Hein. La Xbox One se vend quand même mieux que la 360, je crois.
Mais... Oui, mais enfin, elle démarre mieux. Elle a mieux démarré. Mais alors, attends. Donc après 2 ans, ah, remarque, non. Non, après 2 ans, elle était à 17,7 millions.
D'accord, donc enfin, un tout
si,
petit
si,
peu mieux quoi.
Enfin en même temps si parce que ouais. Et d'autant plus que 17,7 millions c'est les unités distribuées et non vendues. Alors que là avec les Electronic Arts, il est question d'exemplaires vendus aux consommateurs.
D'accord.
Donc 19 oui. millions par rapport à 17,7, c'est mieux quoi.
C'est mieux et surtout que la Xbox 360 était clairement la console dominante en tout cas au départ sur la génération précédente. On se souvient que Sony s'était planté lamentablement au début hein, sur les 2 premières années avec la PlayStation 3. Donc 19 millions, encore une fois, c'est pas un chiffre ridicule du tout. Mais quand on met dans la balance les 19 millions contre les 36 millions ou même plus maintenant de la PlayStation 4, clairement c'est un succès de Sony à ce niveau quoi.
Oui, et puis surtout, enfin, la comparaison avec la génération précédente, je la trouve pas super justifiée parce que la génération précédente avait vraiment mis un moment à démarrer. C'est vrai, c'est vraiment une génération qui avait mal démarré de manière globale. Enfin, la Xbox 360 c'était quand même bien à l'époque parce qu'il y avait la comparaison avec la première Xbox, mais la PS3 c'était lamentable et elle a duré très longtemps. C'est par la suite que les ventes ont explosé. Donc je trouve pas ça super pertinent de se féliciter en disant que c'est mieux que la génération précédente parce que ça va pas forcément dire que ça va se confirmer dans les années qui viennent quoi.
Ouais, c'est sûr que là cette génération a démarré très très vite, très très fort, peut-être à cause de la longueur de la précédente.
Oui, justement, oui, c'est clairement par rapport à cause de la longueur et puis à cause de d'erreurs qui n'ont pas été reproduites. Enfin, typiquement la PlayStation 4 est sortie à 400 € alors que la PS3 c'était 600 €, ce qui avait fait beaucoup de mal à la console, quoi.
C'est sûr, ouais. Bon, Dany, une remarque là-dessus ou on enchaîne avec d'autres questions sur la Xbox One?
Enchaînons, j'ai pas grand-chose
Ouais.
de plus à ajouter. La performance, elle reste correcte, et je pense que de toute façon, il faut analyser la performance de la console sur sa durée de vie entière. Comme tu l'avais mentionné il y a pas si longtemps, finalement la PS3 avait commencé bien derrière à l'époque et a rattrapé son chemin. Donc on verra, on en reparlera dans 2 3 ans et peut-être que ça aura changé d'ici là. Mais pour l'instant, c'est sûr que Sony domine clairement le marché.
Ouais, alors ça veut pas forcément dire que c'est une mauvaise nouvelle pour Microsoft, tant qu'il y a des jeux intéressants et qu'il y a du matériel, enfin du matériel, tant qu'il y a des raisons d'acquérir la console. Et là, moi, qui j'avais connu un, je l'ai évoqué vaguement dans l'épisode précédent, mais j'avais connu une sorte de regain d'enthousiasme pour la Xbox One, et là, depuis quelques mois, ce regain d'enthousiasme est un petit peu en train d'être assassiné à coups de couteau, parce que d'une part, on a vu la sortie de Tomb Raider sur PC, on savait que c'était une exclusivité temporaire, mais je pense qu'on n'imaginait pas que cette exclusivité ne durerait que quelques 2 mois. On a Scalebound qui a été repoussé de 2016 à 2017, qui était l'un des gros jeux que j'attendais avec impatience. Et maintenant, on a un indice sur le fait que Quantum Break, qui est le dernier des gros jeux, si on exclut les jeux Microsoft eux-mêmes, hein, si, on a Gears 4 qui va arriver en fin d'année, mais les jeux d'autres développeurs, on a Quantum Break donc qui pourrait lui aussi être en route vers le PC. Alors c'est une vague rumeur, hein. C'est un organisme de rating au Brésil qui l'a mentionné pour PC. Ça se trouve c'est une erreur. Mais du coup, quelles sont les raisons qui restent aujourd'hui de préférer une Xbox One à une PlayStation 4? Je suis pas certain qu'il y en ait énormément. Alors à moins qu'on soit super fan de Halo et de Gears of War, mais et du coup, c'est pour ça que je me dis, je reviens à des, pas des prédictions, mais un outlook, une vision un petit peu plus sombre sur la Xbox One, parce que je sais pas pourquoi on choisirait la Xbox One plutôt que la PlayStation 4 aujourd'hui, quoi.
Ouais, mais finalement là tu parles d'exclus temporaires, donc par exemple Tomb Raider ou Quantum Break, qui vont être portés vers le PC. Mais finalement s'il y a des gens qui sont intéressés par ces jeux-là, aujourd'hui ou disons d'ici à 3 mois, ils vont avoir le choix entre ces deux plateformes, ce qui est pas forcément en défaveur de la Xbox One, puisque c'est quand même beaucoup moins cher d'acquérir une console qu'un PC gaming correct aujourd'hui.
C'est vrai que moi je pense forcément en PC gamer et si tu sors le PC de l'équation et on sait quand on veut jouer sur PC, il faut généralement un PC dédié à ça et pas juste le PC sur lequel on fait ses bilans financiers sur Excel. Bah oui, les jeux comme Quantum Break ou Tomb Raider ou Scalebound, bah si c'est sur console, il y en a quand même qu'une sur laquelle on peut y
Voilà.
jouer, donc
Et
t'as pas
ça
tort
reste
là.
donc ça reste pour
Tomb
être vendu.
Raider sera sur PS4 à la fin de l'année.
À terme, oui,
À la
c'est
fin de
vrai.
l'année, oui.
Mais
Mais là, j'ai mentionné vraiment entre 3 et 6 mois, tu vois. À la fin de l'année, de
ouais.
toute façon, il y aura d'autres jeux dans le line-up Xbox qui vont faire que. Mais pour les 6 prochains mois, je me fais pas trop de soucis pour eux, hein. Les exclus consoles qu'ils ont encore restent quand même plutôt intéressantes.
Ouais, mais en fait, pardon. En fait, le truc, c'est surtout que là, jusque-là, Sony n'avait vraiment pas beaucoup d'exclus. Enfin, là, sur l'année 2015, finalement, il n'y avait que Bloodborne comme vraie grosse exclu de la part de Sony, alors que Microsoft, ils avaient Forza, ils avaient Halo, ils avaient Tomb Raider. Et là, ils ont un peu sorti toute leur artillerie lourde en fin d'année Microsoft face à Sony qui n'avait quasiment rien. Et là, par contre, en 2016, ça va être beaucoup plus compliqué parce que là, Sony commence à avoir des grosses exclusivités qui débarquent.
Ouais, j'ai l'impression aussi, effectivement, il y a bien sûr Uncharted, mais c'est pas le seul. Et puis il y a l'aspect VR, l'aspect réalité virtuelle, qui à mon sens, bah on sait toujours pas si ça va marcher ou pas. Hein, ça se trouve ça va faire un flop, mais il n'empêche que la perspective
En termes d'image
existe,
de
tu vois.
marque, c'est vachement vendeur, quoi. Même si les gens ne, même même si le PlayStation VR ne marche pas, supposons qu'il soit trop cher, enfin que ça soit pas un vrai gros succès. passé. Je pense que juste en termes d'image, ça donne une très bonne image à la console. Quoi.
Bah, même au-delà de l'image, moi je me dis que si aujourd'hui je suis intéressé, je suis un gamer et je me dis je veux une console et je regarde laquelle choisir, à moins que je tienne absolument à avoir des jeux sur qui ne seront que sur Xbox One. La perspective de pouvoir avoir un accès à la plus grosse révolution potentielle du jeu vidéo de ces dernières années, c'est la réalité virtuelle. Et du coup, il y a déjà un truc possible sur la PlayStation. Sur la Xbox, a priori, c'est moins présent ou c'est pas présent. Donc,
Mais en parallèle, t'as aussi la rétrocompatibilité de la Xbox One vers la 320, qui est quand même c'est un plus sympa. Qui voilà, non, je pense qu'il y a des choses qui s'équilibrent. Et de toute façon, en ce qui concerne la VR, bonne chance pour dire qui va être le grand gagnant. Bon, personnellement, j'espère que c'est le PC, mais
Mais le grand gagnant, bien sûr. Mais sur console, c'est un petit peu le
Il y a pas le choix. Oui,
bah ça, voilà, c'est ça. Il y a pas le choix. Donc hein. Si la VR t'intéresse et que tu dis
mais il faut voir ce qui va à quel prix ça va être disponible sur PlayStation.
Ah, ça c'est la grande question.
Quel va être le line-up disponible également et quels vont être les gros jeux à utiliser la VR dans les je sais pas entre 6 et 18 mois.
Bah écoute, peut-être que oula, pardon. Excusez-moi, c'est le vent du Nord qui me... Donc, peut-être que toute notre vision du monde des consoles va être chamboulée dans quelques semaines, puisque Microsoft organise le 25 février une conférence, enfin un événement gaming qui regroupera Windows 10 et Xbox. Mais peut-être qu'ils vont annoncer des choses intéressantes. C'est certainement un moyen pour eux de remettre du feu dans la dynamique Xbox dont tu parlais, Oscar, qui était vraiment forte au niveau des sorties et des exclusivités en fin d'année dernière. On espère qu'ils vont annoncer en fin de mois des choses qui vont être intéressantes, qui vont redonner de la motivation à ceux qui sont intéressés par la console. Et puis peut-être même, pourquoi pas, une annonce fracassante d'un accessoire VR ou d'un truc comme ça. Moi, je continue à me dire que peut-être il serait possible que ils aient travaillé avec Oculus pour développer une version du Rift pour Xbox One. Peut-être un petit peu moins cher, un petit peu plus facile à mettre en place ou je sais pas, mais je me dis que ça reste une possibilité. Mais bon, on aurait peut-être eu des leaks si c'était le cas.
Moi, je verrais plutôt une version officielle du Rift qui soit utilisable sur Xbox One aussi, parce que finalement, comme ça, c'est un investissement aussi pour le joueur qui dit voilà, j'essaye sur Xbox One, si c'est sympa, peut-être qu'un jour je me prendrai un PC plus performant pour jouer dans de meilleures conditions et pouvoir utiliser en fait ton Rift sur les deux machines. Je pense que
le problème, c'est qu'il est très cher.
Ah bah c'est cher, oui.
Oui, et puis au-delà de ça, il a besoin d'une machine très puissante pour pouvoir bien tourner. C'est-à-dire que c'est ça le truc aussi, c'est que les consoles actuelles sont incapables de rivaliser avec avec
la
un
puissance
PC
du PC
optimisé pour
l'Oculus,
quoi. Donc et vu que Oculus maintenant ils sont lancés dans une stratégie de on va privilégier la qualité, la puissance du truc pour un bon rendu au détriment de l'accessibilité au niveau du prix. Et finalement peut-être qu'ils peuvent s'allier avec Microsoft pour faire un truc un peu comme ils ont fait avec Samsung pour le Gear. Ça reste possible, mais je pense que ça restera de toute façon une expérience, mais de la même manière que le PlayStation VR restera une expérience qui, à mon avis, sera nettement moins aboutie que l'Oculus.
Ah bah c'est sûr, oui, le PlayStation VR, on connaît pas encore le prix, mais on imagine qu'il sera un peu moins cher. Il est clairement techniquement en deçà de ce que peut faire le Rift. Hein. Et d'ailleurs, ils sont obligés d'adjoindre un boîtier qui embarque du hardware pour soulager la console elle-même qui soufflerait ses poumons, qui cracherait ses poumons si elle devait gérer la réalité virtuelle toute seule. Mais... bon, enfin, en tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer à cet événement. J'espère qu'il y aura des annonces intéressantes, parce que s'ils font un événement juste pour... Enfin, je sais pas, en l'état actuel des choses, je suis pas certain de savoir ce qu'ils peuvent nous montrer, quoi. Peut-être Quantum Break qui sort quelques semaines après, Gears 4 qui sort en fin d'année. Et puis à part ça, je sais pas trop, peut-être un nouveau Forza, ce genre de choses, mais bon.
Oui, Forza Horizon 3.
Oui, voilà, oui. Mais faire un événement, tu vois, spécial oui, juste oui, sur oui. ça.
Oui, non, bon. Mais de toute façon, je pense que je pense que tu surestimes un peu le truc. Je pense que ça va être un truc un peu barbant, qui va être vachement centré sur. Je pense qu'on verra pas beaucoup de jeux. Je pense qu'on verra pas de jeux inédits en tout cas.
Bon. Ok, bah écoutez, rendez-vous le 25 février pour la réponse. Et puisqu'on a parlé de Nintendo, on a parlé de Microsoft, et ben on peut parler un petit peu de Sony aussi, qui a créé une nouvelle unité, une nouvelle société en fait, qui réunit en son sein, elle s'appelle Sony Interactive Entertainment, qui réunit les deux sociétés précédentes, qui étaient Sony Computer Entertainment et Sony Network Entertainment International. Alors pour schématiser, hein, on a cherché pendant à peu près, 10 minutes le rôle de Sony Network Entertainment International. Bon, Sony Computer Entertainment, c'est la PlayStation et les jeux. Sony Network Entertainment International, c'est tout ce qui est le réseau PlayStation avec les jeux, les films, la musique, tout ça. Et ben tout ça est réuni dans une société basée aux États-Unis qui s'appelle SIE. Voilà, c'est une news un petit peu business. Je sais pas s'il y a énormément de commentaires à faire dessus, mais ça équilibre comme ça. On donne une news Sony en plus des autres.
Après le truc intéressant dans l'histoire, c'est surtout que maintenant le quartier général de la division PlayStation est aux États-Unis et non
c'est
plus
ça,
au Japon.
Ouais. Ouais, c'est un shift assez intéressant, surtout pour une. On sait que les sociétés japonaises sont généralement extrêmement traditionnelles, c'est un euphémisme, mais extrêmement lentes à s'adapter, lentes à changer. Et ils ont une structure extrêmement rigide. Et Sony, avec Kazirai notamment, qui était à la tête de la division PlayStation pendant longtemps, a montré que ils avaient une sorte de dynamisme qui était assez atypique pour les sociétés japonaises et qui était beaucoup plus qui nous rappelait beaucoup plus les sociétés la manière de faire en fait occidentale. Donc c'est peut-être un signal de plus que les Japonais de Sony, en fait Kazirai, hein, se dit essayons de rester, de continuer dans la voie qui fonctionne et gardons cette agilité, cette manière de faire occidentale et implémentons-la de manière définitive de cette manière. Bon, le Sony, le groupe en général, reste au Japon et Kazirai reste au Japon. Donc il y a quand même un chapeau japonais au-dessus de tout ça. Et puis enfin, dans les grosses news, il y a l'annonce que le président de Bungie, développeur de Destiny évidemment, et historiquement développeur de Halo, de la série Halo, a été... Alors comment on l'interprète ? Est-ce qu'il a lui décidé qu'il voulait passer plus de temps avec sa famille ? Ou est-ce que on a décidé au sein de la société qu'il était peut-être temps qu'il aille passer plus de temps avec sa famille ?
Je pense que c'est plutôt la deuxième option.
Ouais.
No comment.
Ouais, c'est un petit peu... Alors, vous savez à quel point j'ai aimé et j'aime et je trouve excellent Destiny, mais il n'y a aucun doute sur le fait que il y a eu de gros problèmes dans le développement et le lancement de Destiny. On a appris il y a quelques jours à peine que Destiny 2 ne serait pas disponible fin septembre comme prévu.
Ça reste à l'état de rumeur pour l'instant.
Ah, je croyais que c'était... J'ai peut-être confondu, effectivement.
De toute façon, il n'a jamais été officiellement confirmé qu'on aurait un Destiny 2 en septembre.
C'était ce leak.
On le sait grâce au contrat qui avait été révélé à l'époque où même le premier Destiny n'avait pas encore été officiellement annoncé. Et où dès le départ, ils avaient prévu de sortir une suite tous les deux ans.
Ouais, les fameux Comet tous les deux ans et puis les Destiny nominaux en alternance. Et ouais. Donc là, bon, il semblerait que le 2 rate la date de septembre. Et surtout, il y a un grand malaise dans la communauté de Destiny parce que ils ont décidé pour le contenu régulier de The Taken King, dont j'ai parlé dans cette émission, je crois, chaque épisode pendant deux mois, parce que je ne jouais qu'à ça, et c'était mon grand amour de l'automne, avant que Overwatch ne vienne le remplacer, bien sûr. Mais dans The Taken King, il n'y a pas au cours de l'année de contenu en DLC, c'est-à-dire de mini-extensions, comme il y en avait eu pour Destiny originel. On avait eu The Dark Below et House of Wolves, qui étaient venus à 4 mois d'intervalle, ramener du contenu de manière substantielle. Là, il y a eu juste des petits événements un petit peu ridicules et qui n'avaient pas énormément de contenu, et la vente de danse et de demotes, en fait, qui a été activée, et d'autres petites choses comme ça. Mais enfin, vraiment rien de substantiel. Donc, les joueurs commencent à se dire, mais on n'a plus rien à faire, quoi. Et je pense que les équipes qui développaient les mini-extensions dans la première année ont été rapatriées sur le titre Destiny 2, le nominal, et que l'équipe qui était censée développer du contenu pour l'année en cours a été réduite à une peau de chagrin, et effectivement ils ont abandonné l'idée de faire du vrai. Alors il y aura peut-être un truc, ils annoncent qu'il y aura un morceau de contenu un petit peu plus substantiel qui va arriver à un moment. Mais bon, bref, tout ça pour dire que la chose est quand même visiblement mal gérée, et à un moment, il devait y avoir quelqu'un qui prenait ses responsabilités. Il semble que Harold Ryan, le président historique de Bungie, qui était là depuis longtemps, ait pris la balle, quoi. Je pense que c'est clair, non ?
Enfin, moi, je vois ça comme ça aussi. Et puis, je pense surtout que ils étaient peut-être trop ambitieux avec tous leurs plans concernant Destiny, puisque finalement, ce qu'ils voulaient faire, c'est, comme tu dis, proposer régulièrement du nouveau contenu et donc faire vivre le jeu un peu à la manière d'un free-to-play. Mais en même temps, à côté, ils ont besoin de bosser sur Destiny 2 pour faire de la sortie de Destiny 2 un événement, et du coup, c'est un peu compliqué de concilier les deux, et au final, on risque de se retrouver avec ni l'un ni l'autre, quoi. Ce qui fait que là, en ce moment, il n'y a plus de contenu, et puis visiblement, Destiny 2 est repoussé. Ouais. Donc il y a clairement un problème dans la gestion, et puis du coup une tête à couper, quoi.
Ouais. On avait beaucoup entendu aussi de parler de problèmes des outils de développement. En fait, ils ont développé des outils spécifiques pour Destiny, et on entend des développeurs, alors on sait pas si c'est vrai ou pas, mais les rumeurs sont persistantes. Il y a beaucoup d'histoires de gens qui disent mais c'est changer un morceau de décor dans Destiny, ça demande des opérations qui prennent genre 24 heures, quoi. Il faut charger tout le monde dans l'outil de développement, tu changes le truc, tu recompiles, tu re-render, tu machin. Ça t'a pris vraiment des heures et des heures pour changer un tout petit truc, que c'était mal barré. Il n'est pas impossible qu'ils aient repris ça pour essayer de l'améliorer aussi. Enfin bref, il y a tout un tas de problèmes. C'est marrant aussi de faire le parallèle avec World of Warcraft, où la société Blizzard a toujours voulu faire des extensions tous les ans, et ils n'y sont jamais arrivés, jamais. Et encore aujourd'hui, on le constate avec un Warlords of Draenor qui est sorti il y a plus d'un an, et la prochaine extension Legion qui sortira pas avant encore plusieurs mois, et là il n'y a plus de contenu non plus. Donc à chaque fois qu'ils essayent, ils se disent bon, tous les ans on va sortir une extension, à chaque fois ils n'y arrivent pas. Bon, Blizzard a peut-être les reins plus solides, ou plus de, enfin, pour eux ils rentrent de l'argent de toute façon avec leur abonnement, donc ils s'en foutent, ils peuvent peut-être prendre plus de temps. Et puis on sait que Blizzard n'a jamais été du genre à se plier aux contraintes financières ou sacrifier la qualité. Mais Bungie a peut-être pas autant de sources de revenus différentes. Pour eux, c'est, ils sont complètement engagés dans Destiny, et donc le fait que le développement, la sortie du Destiny 1 et puis de l'extension de Destiny 2 soit aussi problématique, c'est beaucoup plus problématique justement pour la société en elle-même, quoi.
Après, t'as aussi une relation très différente, parce que c'est-à-dire que Blizzard est un peu en autonomie au sein d'Activision Blizzard, Alors que Bungie, c'est vraiment un studio qui travaille pour Activision et qui a tout un tas de contraintes, enfin qu'ils ont des comptes à rendre vis-à-vis d'Activision. Et c'est peut-être aussi ça qui pose un problème. Enfin, c'est il y a comme l'affaire qui avait eu avec c'est O'Donnell, je crois, le compositeur historique de Bungie qui s'est fait virer suite à la gestion d'Activision qui enfin il y a eu une mésentente entre les décisions d'Activision et au final Activision qui visiblement a demandé à Bungie de le virer et ça s'est terminé en procès quoi, enfin c'est même pas oui, encore totalement
qu'il a gagné d'ailleurs, qu'il a gagné
oui mais enfin il y a ouais, appel y a je crois
ouais bien sûr. Ouais, donc bon, moi donc ça
montre un climat un peu inquiétant, quoi.
Ouais, c'est sûr. Moi, franchement, ça m'inquiète pas énormément pour Destiny 2. Je pense que effectivement, il va prendre un petit peu plus de temps que prévu à sortir. Vous le savez, The Taken King pour moi était une excellente extension, donc je pense qu'ils ont des bases très solides. Ils ont vraiment de quoi faire. Et puis le problème, c'est juste que là, la communauté du jeu aujourd'hui va finir par se lasser et va devoir attendre la sortie du 2. Il y a clairement eu des problèmes, des dysfonctionnements dans le développement, mais moi je suis pas inquiet pour le 2. Je me dis juste que bah il mettra plus longtemps à sortir, il sera très bien quand il sortira.
Après, de toute façon, vaut mieux qu'il soit repoussé et qu'il soit bien fini plutôt que l'inverse.
Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Ça c'est certain. Dany, t'es très silencieux, toi t'es pas un fan de Destiny ni de Bungie, c'est ça, tu détestes tout le monde?
J'ai pas joué à Destiny, j'ai longuement hésité, donc voilà, j'ai rien de particulier à dire là-dessus. Bungie, j'ai jamais été trop fan de leur jeu.
Donc en fait t'es content que Harold Ryan se fasse virer?
Content, et j'espère qu'il va rester avec sa famille à pêcher le restant de ses jours.
Bah, en tout cas, oui pardon.
Non, mais voilà, enfin globalement, moi j'ai quand même une petite inquiétude quant à la qualité de Destiny 2, donc même s'il repousse, ce qui en général c'est à la fois bon et mauvais signe, mais je pense que la vitesse à laquelle ils sortent en fait du contenu et éventuellement donc le 2, c'est quand même très très rapproché les uns des autres, et j'ai peur que ça rentre un peu dans une logique de suite un peu comme on connaît pour les gros éditeurs type Ubisoft, Activision et EA.
Ouais. Bah disons que il y a une citation, je sais plus si c'était lui qui l'avait sorti, mais Rob Pardo anciennement chez Blizzard qui disait on ne peut pas mettre 9 femmes dans une chambre et avoir un bébé en un mois. Et c'est vraiment ce qu'on constate avec le développement des jeux vidéo. Tu as beau essayer d'en faire un de développer une suite en un an, soit t'as deux équipes qui alternent et ça pose les problèmes que ça pose aussi de cohérence, de etc. Mais 2 ans ou 1 an et demi, 2 ans, ça semble vraiment être le minimum pour développer un jeu minimum ou une extension. Et là, bon bah. Ça a l'air d'être l'enseignement qu'on a de chez Bungie. Et l'autre enseignement, ça c'est peut-être un petit peu plus une leçon en général dans toutes les industries du monde, c'est que quand quelqu'un dit « je veux passer plus de temps avec ma famille, donc je m'en vais », généralement, c'est qu'on lui a demandé d'y aller. Voilà. Bon bah écoutez, on va faire une petite pause pour remercier Yannick038 qui a laissé un commentaire avec 5 étoiles sur iTunes. Il nous dit un excellent rendez-vous. Son commentaire c'est: je vous suis depuis déjà quelques mois et c'est un régal que de vous écouter transmettre votre passion et vos avis sans concession. Il dit ensuite avec un gros smiley: mais pitié, pourriez-vous arriver à ne pas parler d'Overwatch pendant 1 à 2 épisodes? Non, jamais. Overwatch, j'en parlerai à chaque fois. D'ailleurs, je l'ai mentionné, je sais pas si vous avez entendu, très très discrètement pendant la première partie. Mais bon, que voulez-vous, c'est vrai que c'est tombé au moment à la fin du de l'automne, et puis après il y avait les bilans de fin d'année, donc forcément. Et en plus, il revient, la bêta revient dans une semaine normalement, 1 ou 2 semaines, ouais peut-être 2 ou 3. Donc voilà, ça reviendra. Mais bon, ensuite il dit: au plaisir de continuer à vous écouter. Mes déplacements professionnels me semblent plus courts en compagnie de mes amis numériques, partageant ma passion de grand enfant. Merci à toi Yannick, et merci à vous tous. Si vous voulez donner un petit coup de main, un très bon moyen, c'est d'aller sur iTunes ou sur n'importe quel logiciel que vous utilisez pour écouter des podcasts et nous mettre un commentaire ou une review, enfin avec un nombre d'étoiles que vous estimez approprié. Je vous remercie par avance de le faire, ça nous file un gros coup de main. Et on va continuer avec quelques petites news disparates. On sait qu'il y a eu la sortie de la, la bêta de The Division, qui était disponible pendant ce week-end. Alors moi, malheureusement, j'ai pu jouer à rien ces derniers temps parce que, comme vous le savez, j'étais en plein déménagement dans les avions, dans les camions et tout. Mais The Division était disponible en bêta. Je crois pas que vous y ayez joué, vous, hein.
Si, j'ai un peu joué.
Ah oui. D'accord. Bon, bah, du coup, très bien. Tu peux nous dire tes impressions sur la bêta de The Division?
Ok. Bah, écoute, c'est bon. J'ai pas passé 106 ans dessus. Alors, le jeu est très beau. Il est franchement, ça tombe bien. Graphiquement, donc, très joli.
T'as joué sur quelle plateforme?
PC, évidemment, Master Race.
Bien sûr, bien sûr.
De toute façon, un FPS ou un TPS, pour moi, c'est plutôt clavier-souris. Je suis vraiment pas assez bon avec une manette. Mmh. Là où j'ai trouvé ça un peu décevant, c'est au niveau de l'intelligence artificielle des adversaires, donc en PVE. J'ai fait que du PVE, hein, donc voilà, c'est clair là-dessus. C'est un peu n'importe quoi, et ça fait penser un peu à... un MMO type World of Warcraft, justement, où l'ennemi il a disons un mode de déplacement et d'action qui est cyclique, et en gros une fois que tu l'as compris, tu peux faire exactement ce que tu veux avec lui, alors que finalement c'est supposé être un FPS, et a priori dans un FPS il vaut mieux avoir des ennemis qui ont des comment dire, un cycle d'activité et d'action un peu aléatoire, ou planifié un peu plus intelligemment. Et là, j'ai pas ressenti ça, donc j'ai trouvé ça un peu bébête. Mais voilà, globalement, je pense que de toute façon, ça peut être un jeu très sympa. Je sais qu'il y a plein de news en ce moment sur le jeu. On verra ce que ça va donner. J'attends pas, disons, ce jeu comme le Messi, mais je pense que pour jouer quelques heures, deux ou trois week-ends, ça peut être sympa.
Bah écoute, c'est ce que disent beaucoup de gens, c'est un RPG avant d'être un FPS. Destiny c'était un petit peu l'inverse, c'était un FPS avant d'être un RPG, les éléments RPG étaient très faibles. Sur The Division, ce que tout le monde dit c'est que c'est vraiment un RPG avant d'être un FPS ou un TPS. Et donc ces remarques que tu fais ont été ressenties par tout le monde, les ennemis un petit peu bêtes, mais quand on pense à la version MMO d'un jeu au début, bah les ennemis, enfin même pendant toute la progression, si tu penses à World of Warcraft, bah tu les exploses tous sans aucun problème. Donc c'est vraiment l'idée.
Oui, alors
l'idée,
non, vraiment c'est par exemple le premier mini boss que tu vois, enfin quand t'es niveau 2 ou 3, donc c'est au tout début, il a un gilet pare-balles et en gros il reste en plein milieu en train de tirer sur tout ce qui bouge, et toi tu lui tires dessus sans qu'il fasse quoi que ce soit de particulier, et en fait la seule chose que tu remarques c'est 138 points de dégâts, 140, 250, mais sinon il a pas une réaction comme t'attendrais par exemple dans un Call of ou Battlefield.
D'accord, donc c'est des ennemis poteaux qui sont posés là et tu leur tires dessus, quoi.
C'est simple, c'est ton kobold, c'est Ogre dans la dans la première zone de World of Warcraft, c'est exactement ça. Il a beaucoup de points de vie, il bouge pas et de temps en temps il va se mettre à couvert deux secondes et puis ressortir en faisant n'importe quoi.
Mais Ogre, c'était quand même un petit peu difficile au début avant que la progression soit lissée.
C'est quand même difficile. Parce qu'il avait beaucoup de points de vie. Donc là, c'est pareil. Il a beaucoup de points de vie. Il fait des gros dégâts. Donc tu peux pas rester à découvert en train de faire n'importe quoi. Mais c'est la seule difficulté, en fait. C'est pas un adversaire intelligent. Et si tu vises la tête et que tu fais un headshot, bah, tu vas faire 350 points de dégâts au lieu de 150. Ça, c'est un peu dommage.
D'accord. Bon, il faut dire aussi que le niveau était limité au niveau 8 dans la bêta, donc c'était quand même relativement le début du jeu. Peut-être que les ennemis deviendront différents quand le jeu sortira, et puis il sort en mars, hein, donc on a encore le temps d'améliorer quelques petits trucs peut-être.
Oui, je pense qu'il y aura un patch day one de toute façon qui fera 2 gigas minimum, donc...
Ouais. Et puis, ce que disent beaucoup de gens aussi, j'ai lu beaucoup de choses dessus, et puis en particulier, il y a une vidéo d'Alpha, AlphaCast, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un YouTuber que je trouve très sympa, et il a fait une vidéo assez longue où il explique son ressenti sur le jeu, et il dit que lui, il s'est vraiment amusé en zone PVP, on en a déjà pas mal parlé, hein, donc on va pas repartir là-dessus, mais c'est un mélange PVE-PVP, et puis on peut choisir de faire uniquement du PVE, ou alors attaquer des ennemis humains pour leur prendre ce qu'ils ont réussi à récupérer. Il y a beaucoup de choses basées sur le loot. Donc cette partie est assez fun. De l'avis, je pense que l'avis général de tout ce que j'ai lu, c'est que le jeu est fun, certainement. C'est pas l'énorme blockbuster qui va tout exploser, mais le jeu est fun au moins pour quelques temps. Ensuite, est-ce que ça va être un jeu qui va vous occuper sur la prochaine année? Peut-être pas, mais un petit peu comme tu dis, Dani, tout le monde a l'air de dire que c'est au moins sympa sur quelques temps. Donc bon. On verra effectivement ce que ça donne quand il sort. Les extensions, enfin le Season Pass a déjà été annoncé. Il y en a genre trois mini extensions, trois DLC qui sortiront. En conclusion, Dani, toi, suite à ton expérience dans la bêta, tu achètes le jeu là ou t'attends d'en voir plus ou t'achètes pas?
J'attendrai d'en voir plus. Bon, d'accord. Je l'aurai sans l'acheter, je pense, mais
ah oui, d'accord.
De manière
oui,
légale, bien sûr.
Bah oui, bien sûr.
Disons que personnellement, si je devais l'acheter, je pense que j'attendrai et j'attendrai de voir si j'ai deux trois potes intéressés pour jouer avec eux.
D'accord.
Sinon, je prendrai pas.
Ok. The Witness est sorti, le jeu de Jonathan Blow. Là encore, malheureusement, j'ai pas vraiment pu l'essayer. Excellente review. Le jeu a l'air effectivement très bon, de tenir sa promesse. C'est vraiment cette sorte de mist, enfin énormément une atmosphère particulière, énormément de puzzles à résoudre. Donc si vous êtes intéressé par ce jeu, moi je pense que je vais le prendre parce que ne serait-ce que pour Jonathan Blow, voir ce que ça donne. En tout cas, il avait l'air de dire que le jeu a généré autant de revenus en une ou deux semaines que son précédent jeu en un an. Braid, bien sûr, hein, le précédent jeu. Bon, évidemment, le jeu est plus cher, donc c'est un petit peu plus facile. Mais ce qui est bien, c'est qu'il s'était beaucoup endetté pour finir The Witness. Il a développé pendant 7 ans, et là il se dit qu'il va pouvoir remettre le même budget, voire peut-être plus, sur son prochain jeu. Donc voilà, c'était une excellente nouvelle pour Jonathan Blow. Et entre parenthèses, tiens, il y avait une série d'articles super intéressants sur Jonathan Blow dans Game Cult, un article de fond sur lui où il détaillait un petit peu son parcours et le personnage. Si vous l'avez raté et que vous êtes abonné premium Game Cult, allez y rejeter un coup d'œil, c'était une super lecture. Je voulais le signaler aussi. Et puis enfin, Darkest Dungeon est sorti. Il était en early access depuis longtemps. Moi, j'avais acheté justement Darkest Dungeon au moment des soldes. Je voulais en dire deux mots parce que c'est un jeu qui a fait un petit peu de bruit et qui pourrait peut-être intéresser certains des auditeurs. Vous avez testé Darkest Dungeon? Vous y avez joué ou pas du tout, Oscar et Dani?
Moi non.
Pas
non.
Du tout non plus, non.
D'accord, Darkest Dungeon, en fait, c'est un jeu sur PC qui est un petit peu spécial, en fait. C'est un mélange entre c'est un jeu de stratégie au tour par tour où on constitue une équipe et on doit aller explorer des donjons. Et il y a tout un système assez compliqué que je vais pas détailler dans l'émission parce que ça prendrait un petit peu trop de temps. Mais en gros, c'est un jeu de stratégie au tour par tour assez accessible, mais en même temps très profond. Mais là où c'est intéressant, c'est l'ambiance du jeu. C'est un jeu qui, je pense, plairait beaucoup à Dani parce que c'est un jeu où nos équipes peuvent devenir folles, tomber malades et en fait leur santé mentale est hyper importante et ils vont explorer des endroits tellement sombres et inquiétants et fous que eux-mêmes deviennent fous. C'est un petit peu une ambiance à la Lovecraft avec des grands anciens et ce genre de choses. Et c'est un jeu qui est pas facile, hein. C'est pas un jeu évident. C'est vraiment un jeu pour les PCistes convaincus, hein. Généralement, c'est ceux qui aiment ce genre de jeu, qui détestent les jeux triple A. Mais c'est vraiment un jeu de qualité si vous aimez la difficulté et si vous aimez les ambiances super sombres, super noires. Donc je voulais juste le mentionner comme ça rapidement. C'est un jeu très spécial. C'est le genre de jeu où on se dit on est content que des jeux différents comme ça existent. Donc voilà, je voulais juste le mentionner rapidement. Et puis on va passer sur toutes les sorties qui vont arriver en février. Il y a plein de sorties là qui sont prévues. Enfin, ce mois-ci, c'est un mois un petit peu de folie, un petit peu comme tous les mois de cette année en fait. Mais il y a Gravity Rush Remastered qui arrive sur PlayStation 4, XCOM 2, ça va plaire à certaines personnes. L'extension de Dying Light, je sais qu'il y a des fans. Firewatch que j'attends avec grande impatience. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Unravel, bien sûr Street Fighter 5 le 16 février. Dany, achat direct.
J'en connais un qui est sur les direct, je pense que je le prendrai, je l'aurai sans aucun souci. La question maintenant, c'est de savoir sur quelle plateforme le prendre, PC, PS4.
Je crois que Street Fighter 5 c'est PS4 quand même.
Moi, je pense aussi, mais j'ai un stick arcade en fait sur PC, donc c'est très ennuyeux.
Ah oui, effectivement. Le truc, ouais, moi je crois que ça va être achat sur PlayStation Store, même s'il va être plus cher parce que c'est le jeu qui reste sur ta console, quoi. Tu vas pas avoir à mettre le disque à chaque fois que tu veux y jouer, il reste sur ta console, il y sera pendant des années. Donc moi je crois que ça va être ça. Bref, Fire Emblem Fates, Dany aussi, achat direct, je pense.
Achat direct, mais c'est aux États-Unis qui sort en février, en Europe, c'est plus tard,
c'est plus
malheureusement,
tard,
et je suis dégoûté, parce que Fire Emblem, c'est quand même un peu le jeu que j'attends cette année.
Far Cry Primal, etc., etc. Et malheureusement, un autre qu'on attendait un petit peu, Mighty No. 9, a été décalé pour la troisième fois, genre à 3 semaines de la sortie. Il a été décalé en plus vachement, quoi. Donc c'était un petit peu surprenant qu'il soit décalé vraiment à 2 semaines du moment où il était sorti. Voilà, à septembre. Donc bref, Mighty No. 9 toujours un petit peu inquiétant. Des fans de Final Fantasy dans l'assistance?
Il y a longtemps.
Ouais, il y a longtemps.
Voilà.
Ok. Final Fantasy 15 a eu son Active Time Report et on va avoir. Alors, on a eu l'annonce de la date de sortie. C'est-à-dire que la date de sortie sera annoncée le 31 mars.
Donc ils annoncent l'annonce de la date de sortie.
C'est ça, exactement.
C'est pas mal.
On sait que la date de sortie sera annoncée le 31 mars. Il y avait aussi un extrait de combat dans l'Active Time Reports de 3 minutes environ. Je m'étais pas rendu compte à quel point c'était action, Final Fantasy XV. Je savais que c'était un petit peu action, mais là, dans l'extrait qu'ils ont montré, c'est vraiment... Enfin, on dirait un Devil May Cry ou c'est assez surprenant.
Ou un Xenogears. J'ai l'impression, ouais. Moi, ça m'avait fait plutôt penser à Xenogears, justement.
Ouais, peut-être, effectivement.
Oui, c'est un peu une évolution de tout ce système de combat qui essaye d'être beaucoup plus action, aussi dans la lignée de FF12, de pas mal de jeux comme ça.
Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à des Final Fantasy. Là,
je te conseille le 14. Tu vas voir un scénario horrible et un jeu d'un ennui absolu.
J'ai joué. Le 14, attends, tu parles du MMO.
Ah, pardon, le 13.
Ah oui, d'accord, ok.
Non, le MMO, j'y ai pas touché.
Moi, j'ai joué au MMO.
Ouais.
Ouais, voilà. J'ai joué un tout petit peu.
Hein. J'aime bien le.
Disons que tu as joué moins qu'à World of Warcraft, c'est ça?
Ah ça, je crois que j'ai joué à rien plus ou autant qu'à World of Warcraft. Donc, peut-être, ouais, peut-être. Et encore, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Donc voilà, bref, Final Fantasy XV bientôt. Un jeu qui va peut-être plaire à Dany. Funcom a annoncé un nouveau jeu Conan le Barbare, qui sera un jeu open world de survie. On se souvient que Funcom avait développé le MMO Conan, qui était pas mal, qui avait plein d'éléments hyper intéressants. Et malheureusement, il n'avait pas fonctionné. Mais là, peut-être qu'un jeu en solo pourrait être pas mal. La licence Conan est toujours intéressante. Moi, je suis ça d'un œil, intrigué.
Oui, je pense que ça peut être sympa. En plus, si c'est en solo, ils pourront peut-être travailler un peu plus le scénario, ce qui, à mon avis, manquait pas mal sur le MMO lui-même.
Sur le MMO, non, justement, il y avait un scénario. Non, enfin, bon, pour bon, un
moi,
MMO.
J'étais pas époustouflé par le scénario, disons.
Ouais.
Pour moi, mon meilleur souvenir de Conan, de toute façon, personne n'y aura joué, mais c'était la version Apple II.
Ah mais bien sûr, Conan, où t'avais voilà. les deux manettes et tu pouvais faire plein de mouvements. C'était l'un des premiers jeux de combat avec Karateka, juste oui, après voilà. Karateka. Ah, mais bien sûr, Conan le Barbare. Ah, pour ceux qui s'en souviennent, big up. Le Conan sur Apple II, c'était incroyable. Et il était sorti sur Commodore 60, sur Amstrad, je crois Amstrad, aussi.
Ouais,
ouais. Ouais, ouais, parce que toi, t'étais un riche, t'avais un Apple II. Moi, j'étais un pauvre avec un Amstrad. Enfin, un pauvre.
Avec toi, tu jouais avec des jouets en bois, c'est ça?
Non, j'avais un Amstrad quand même. C'était quand
ah,
même
ça bon, va, c'est intermédiaire alors.
Ouais, c'est ça. C'est un riche moyen. Toi, t'étais un bourgeois richissime. The Walking Dead repoussé à 2017. Vous savez, c'est ce jeu développé par Overkill qui est un FPS qui serait peut-être un FPS digne de ce nom. Il était censé sortir en 2016. Il est repoussé à 2017. Je le mentionne parce que je l'avais mentionné dans l'épisode précédent qui était le bilan 2015 et perspective 2016. Star Citizen, moi j'étais pas au courant, mais en fait le solo de Star Citizen Squadron 42 va être séparé de l'expérience multi. Donc en fait, il va y avoir le solo qui sera l'équivalent de Wing Commander de l'époque, pour les anciens qui s'en souviennent. Donc, une expérience solo avec des acteurs qui font du motion capture, etc. Enfin, un vrai jeu solo. Et l'expérience multi qui sera différente. Donc, la scission va arriver dans 2 semaines sur l'Early Access. Mais en tout cas, c'était plutôt pour mentionner le fait que le jeu sera vraiment séparé. Donc... il y aura un vrai jeu solo pour Star Citizen, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et puis, puisqu'on est dans l'espace, j'aimerais encourager certains d'entre vous qui aiment les jeux dans l'espace à peut-être vous intéresser à Everspace, qui est un jeu disponible en Kickstarter, enfin disponible, qui est en cours de financement, qui a réussi sa campagne Kickstarter et on peut encore soutenir. C'est la société qui a développé Galaxy on Fire sur les jeux, enfin sur les appareils iOS. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu, mais il était franchement pas mal pour un petit jeu iOS. Et là, ils ont développé, c'est Rockfish Games. Ils sont en train de développer un roguelike dans l'espace qui est focalisé sur le combat spatial. Mais regardez la vidéo de présentation, le jeu est déjà assez avancé et il y a certains éléments qui donnent vraiment l'eau à la bouche. Donc voilà, j'aime bien parler de petits jeux. De temps en temps qui sont pas que les AAA, donc je voulais le mentionner. Celui-là m'a un petit peu tapé dans l'œil. Je suis en train d'hésiter à contribuer au Kickstarter, enfin au financement, pour choper le jeu. Il a des aspects assez intéressants et puis un roguelike de combat dans l'espace, pourquoi pas, c'est un concept qui pourrait être intéressant. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. J'aimerais bien sûr donner à nos co-animateurs l'occasion de nous dire où on peut les retrouver sur l'internet avant de clôturer l'épisode. Et on va commencer par quelqu'un qui a été très silencieux pendant ces dernières minutes, à savoir Oscar Lemaire.
Oui, bah moi j'écris essentiellement pour Gamekult. Alors surtout en premium, enfin surtout même exclusivement maintenant.
Les comptes de Monsieur le Maire, oui.
Voilà, notamment. Et puis de temps en temps pour d'autres médias comme Le Monde par exemple, enfin Pixel. Mm-hmm. Et puis sinon je suis sur Twitter. @OscarLemaire.
@OscarLemaire, bien sûr, comme je le disais, le compte qu'il faut suivre quand il y a des trucs financiers qui se passent dans le jeu vidéo. Vous avez tous les graphiques.
C'est la période d'enfant.
Ouais. Dany, toi, t'es où? Tu fais quoi?
Eh ben, c'est très simple. Je suis sur Twitter et j'ai un nom d'utilisateur extrêmement original puisque je suis @NotDany, donc NotDany.
Je trouve que ce nom, à chaque fois que tu le mentionnes, j'ai une sorte de
t'es
bouffée,
émerveillé,
de fierté.
Tu es jalouse à la fois de cette originalité que j'ai eue.
C'est ça, exactement. Bon, pour ma part, c'est oh surprise, NotPatrick sur Twitter et sur Facebook. Je suis aussi, enfin, l'émission est également disponible sur FrenchSpin.fr. Vous aurez également d'autres émissions sur ce site-là. Vous pouvez aller explorer et découvrir des merveilles. Dans tous les cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir laisser des commentaires sur le site FrenchSpin.fr, comme je le disais. Et puis, on revient dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À un jour de la sortie de Street Fighter V. Je sais pas comment je vais pouvoir tenir en place assez longtemps pour faire un épisode entier.
Bon, non, heureusement que c'est un jour avant, hein, parce que jour même, je pense que t'aurais carrément annulé l'épisode.
C'est ça. Non, mais c'est ça exactement. Ça aurait pas été possible. Bon, on vous remercie en tout cas. Merci Oscar, merci Dani, et puis on se retrouve dans deux semaines. Ciao à tous.
Allez, au revoir.
Ciao.